Nous continuons notre étude de l'épître aux Colossiens après avoir fait une petite pause pour regarder le psaume 63. Mais nous reprenons et notre intention c'est de parcourir systématiquement cette épître de verset en verset. Nous sommes donc arrivés après avoir examiné ensemble la prière de Paul. Nous sommes arrivé maintenant au verset 15, mais pour avoir le contexte, je vais vous lire à partir du verset 13, et nous lirons jusqu'au verset 20. Il, donc Dieu le Père, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il, donc le Fils bien-aimé, Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, il parle de pouvoir angélique, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Donc dans le monde spirituel, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu, donc Dieu le Père, de faire habiter en lui, donc on parle de son incarnation maintenant, pas de son divinité éternelle, de faire habiter en lui l'homme Jésus, toute plénitude, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous vous rappelez que dans cette église, dans la ville de Colosse, il y avait des faux enseignants qui sont arrivés et dont le message se résume comme ceci. Jésus-Christ, oui, il est sauveur, mais il n'est pas suffisant pour tout. Pour arriver à la vraie plénitude de Dieu, à la vraie proximité avec Dieu, il vous faut l'intervention des êtres intermédiaires, des anges, des êtres spirituels. Et vous pouvez accéder à ces anges par des rituels, par l'ascétisme, et par des expériences mystiques, des visions. Mais vous avez besoin de Christ plus tout cela pour arriver vraiment à toute la plénitude qui vous est destinée. Et Paul veut bien sûr montrer à quel point cet enseignement est satanique, mais franchement satanique. Dans ce passage, il est en train d'arriver à son message principal qui est ceci. Vous et moi, nous avons besoin plus que toute autre chose pour arriver à la plénitude que Dieu vous destine. Pour arriver à cette plénitude, nous avons besoin de comprendre et de saisir la centralité unique, la suffisance unique et la suprématie de Jésus-Christ. Plus tard dans l'épître, il va dire que son message, c'est ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de gloire. C'est lui, c'est le Christ, lui-même en vous, sans personne d'autre, qui est l'espérance d'être glorifié. Ou bien il va dire ceci dans le deuxième chapitre, il va dire en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui. Ça, c'est le message. Le secret, chers amis, le secret pour être ramené à Dieu, pour connaître Dieu, pour être proche de Dieu et pour participer en tant qu'homme ou femme à la plénitude de la grâce de Dieu, le secret, c'est la personne de Jésus-Christ sans rien de plus. Notre tendance dans nos péchés, nous sommes poussés par notre péché dans ce sens, c'est de vouloir créer des techniques et des systèmes pour résoudre nos problèmes, n'est-ce pas? Et dans ces techniques et ces systèmes, il y a des choses complètement légitimes et nécessaires. J'ai tel problème, tel péché, tel problème dans ma vie, et je vais régler ça avec, je sais que si je fais telle chose et telle chose, si je connais telle sagesse, telle manière de faire et j'applique, je vais y arriver. Je vais changer moi-même. Et on peut être trompé parce qu'il peut y avoir des changements un peu de surface de cette manière. Mais le problème avec tout cela, c'est que on n'a pas besoin de Jésus-Christ. Si on utilise mal ces choses légitimes et nécessaires, et si on en fait la source du changement, la source de bénédiction, la source de plénitude, nous n'avons pas besoin de lui. Et quand j'arrive à changer telle ou telle chose à travers ma technique, j'ai moi-même à remercier et j'ai ma technique à remercier. Mais je n'ai pas Jésus-Christ à remercier parce que je n'ai pas puisé en lui. Je n'ai pas découvert en lui l'homme parfait et toute la perfection qu'il me faut, toute la plénitude de Dieu et toute la plénitude de ce que l'homme doit être est en lui. Et c'est en étant uni à lui que lui, il me restaure puissamment à ce que je dois être. Donc, nous sommes sur le bon chemin dans la mesure où nous sommes en train de regarder vers Jésus-Christ pour toute bénédiction, tout bien dans la vie spirituelle. Tu veux changer ta vie de prière? Tu veux surmonter ta colère? Tu veux apprendre à aimer plus? Tu veux savoir ce que c'est qu'être clément et pardonnant? Alors, en dehors de Jésus-Christ, impossible. Maintenant, avec cette introduction, nous aurons trois choses à regarder qui viennent du passage, parce que le passage nous parle de Jésus-Christ dans sa relation avec d'abord Dieu le Père, sa relation avec deuxièmement la création physique, troisièmement sa relation avec la nouvelle création. Et surtout l'Église. Mais la nouvelle création dépasse l'Église parce qu'il va y avoir un nouveau monde et de nouveaux cieux. Donc Jésus-Christ dans son rapport avec Dieu le Père, avec la première création et avec la nouvelle création ou si vous voulez la rédemption. Parce que la rédemption, c'est quand Christ vient pour faire une nouvelle création. Ok, premier point. Jésus-Christ est prééminent. Nous devons le voir comme hors de dans une autre catégorie, comme seul maître et seigneur et chef dans sa relation avec Dieu le Père. Il est prééminent dans sa relation avec Dieu le Père. Et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi c'est critique pour nous. Regardez la première phrase dans le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Alors, quand nous parlons d'une image aujourd'hui, alors nous avons tendance de parler d'une copie ou d'une représentation de quelque chose qui n'a pas la même essence, qui n'est pas cette chose, mais qui ressemble. N'est-ce pas? Une image. Comme une image dans un miroir, c'est pas moi. Mais ça ressemble à moi. Ou dans une photo est une image, C'est pas les chutes de Niagara, mais ça ressemble. D'accord? Et ce que nous devons comprendre, c'est que dans le monde grec et dans le monde du Nouveau Testament, le mot image, écran, ne signifie pas ça. Le mot image, quand on parlait d'une image, on parlait d'un homologue, de quelque chose qui participait à la substance de l'original. D'accord? Une image pouvait manifester quelque chose parce que il était cette chose aussi. Et c'est pour ça, ça va vous expliquer peut-être quelque chose dans l'Ancien Testament, que on se met à genoux devant des images, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle ces statues dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi est-ce qu'on prie le bout de bois? Parce qu'on croit que le Dieu est véritablement là-dedans. Ce n'est pas juste une représentation en bois de quelque chose qui n'est pas là. Dans la pensée de l'époque, l'image possède la réalité dont il fait image, dont il est la manifestation. En d'autres termes, si vous voulez, une image, c'est un truc en manifestation. Et c'est pour ça que Paul dit, il est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, Christ, c'est Dieu, mais Dieu en manifestation. D'accord? C'est un peu ça que Paul veut dire ici. Et c'est pour ça que je vous ai fait lire avec nous dans Hébreux 1 au début. Parce que, écoutez bien, la manière dont l'auteur des Hébreux dit la même chose. Il dit, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde, ce sont les mêmes idées que nous lisons en Colossiens 1, écoutez bien, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. La traduction que j'ai utilisée là n'est pas formidable. Dans la colombe, il dit qu'il est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Quand vous voyez un rayonnement du soleil, dans le rayon, on a une partie du soleil. Cette lumière possède la même substance que la lumière de l'étoile. D'accord? Et c'est un peu plus dans ce sens que Paul est en train de dire que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. En fait, Jésus peut nous manifester Dieu parce qu'il est Dieu. Il n'est pas seulement un rappel de Dieu ou quelqu'un très empreinte de Dieu. OK? Il est Dieu éternel. Quelle est l'application de cela? Nous avons besoin, plus que toute autre chose, vous et moi, nous avons besoin de connaître Dieu, n'est-ce pas? Tous nos malheurs viennent du fait que nous avons perdu notre relation avec notre Créateur. C'est comme nous sommes comme des gens qui ont perdu de vue la lumière, le soleil. Et tant que nous ne connaissons pas Dieu, nous voyons pas, nous n'avons pas de contact avec lui, nous ne savons pas qui il est, nous n'avons pas cette relation, nous sommes dans les ténèbres. Et ce qui est important pour nous, c'est de savoir que en dehors de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Ces gens étaient tentés de penser qu'avec ces visions des anges, ils allaient y arriver quelque part. Mais Paul est en train de dire, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez Christ et Christ est l'image même, l'expression plénière du Dieu invisible. Et notre besoin, c'est de connaître Christ parce que c'est lui qui fait connaître le Père. Deuxièmement, Christ est prééminent non seulement dans sa relation avec Dieu le Père, mais il est prééminent dans sa relation avec la création, cet univers dans lequel nous sommes. Nous lisons donc dans le chapitre 1 et la deuxième partie du verset, pardon, je retrouve le passage. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. La première phrase passe par de Jésus et Dieu, il est l'image de Dieu. La deuxième phrase parle de Jésus et la création. Il est le premier-né de toute la création. Maintenant, premier-né, il est le premier-né. C'est un des versets favoris des témoins de Jéhovah pour essayer de dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais les témoins de Jéhovah ont besoin d'étudier la Bible un peu plus. Le mot premier-né, prototokos, ne signifie pas le premier à être né, forcément. Dans l'Antiquité, c'est pas comme si Jésus est le premier à être créé de toute une série et peut-être c'est lui qui a fait le reste une fois qu'il a été fait. C'est ça l'enseignement des témoins de Jéhovah. Mais dans l'Antiquité, le premier-né avait une place d'autorité sur les autres, de dignité, une double héritage. Et donc, de cette coutume qui était en Israël et dans toutes les cultures autour, de donner cet honneur spécial au premier-né, de cette coutume est venu un deuxième sens du mot premier-né qui n'a rien à faire avec l'ordre de naissance physique. Le mot premier-né a commencé à signifier celui qui a l'honneur, qui a la première place, qui est le chef. Je vous donne juste un exemple et vous allez voir complètement. Alors, dans le psaume 89, Dieu parle de David le roi. David qui est le deuxième roi d'Israël, qui est un peu au milieu de l'histoire du pays. D'accord? Donc il dit ceci. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Maintenant, David n'est pas le premier roi être né sur la terre, mais il est le premier-né des rois de la terre, parce que le mot signifie celui qui a la prééminence par rapport à tout le reste. Vous avez compris? C'est dans ce sens que Paul utilise le terme, il est celui qui a la prééminence, le chef. C'est un peu comme ça que le passage en hébreu parle aussi, parce que il dit que il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est un peu similaire. Le premier-né de toute la création, l'héritier de toutes choses. L'héritier, c'est celui à qui tout le reste appartient. C'est le même sens. D'accord? Et nous allons voir que dans Colossiens, Paul dit, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. D'accord? Donc, nous avons établi que par rapport à l'univers créé, Jésus est le premier-né dans le sens d'être le chef, d'être le prééminent, celui qui est au-dessus de la création. Et bien sûr, dans son corps humain, il a quelque chose de créé. Mais dans sa personne éternelle, dans sa divinité, il n'est pas créé. Donc nous devons faire attention à cela. La personne éternelle qui n'a jamais eu un commencement, la personne divine qui n'a jamais été créée, mais qui est le créateur de toutes choses, il prend une nature humaine et un corps humain qui est créé, mais lui-même, il est le premier-né, le chef de toute la création. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est le chef, le prééminent? Nous lisons dans le verset 16 le mot car, donc c'est la raison. Il est le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, chers amis, chaque galaxie dont on nous dit qu'il y a peut-être 100 milliards de galaxies, avec des milliards d'étoiles chacune, chaque grain de sable, chaque pie, chaque poupre, chaque cheveu de votre tête, chaque législateur et chaque bûcheron, tout a été créé par lui, nous dit le texte. C'est époustouflant. Et nous ne pouvons pas penser que Jésus a été créé et puis il a créé le reste, parce que Paul s'efforce d'utiliser le mot tout pour montrer que tout ce qui a été créé, tout ce qui est dans la catégorie de créer, c'est Jésus qui l'a créé. Donc il ne peut pas être lui-même dans la catégorie de créer. Ok? Donc le texte ne dit pas il a créé tout le reste de la création. Il a dit tout a été créé par lui. Dans les cieux, dans le monde spirituel, dans la terre physique, ce qui est visible, ce qui est invisible. Et Paul est en train de tenter d'effacer toute possibilité de penser que Jésus soit un être angélique. D'accord ? Tout a été créé par lui. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Ensuite, il est prééminent parce que non seulement nous sommes tous des choses faites par lui, mais nous sommes tous des choses faites pour lui. Donc le texte nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Alors là, nous avons quelque chose d'assez époustouflant. Est-ce que vous saviez que vous aviez été créé et que vous existez pour la deuxième personne de la Trinité, pour être à lui? S'il n'était qu'un charpentier de Nazareth, ce serait le ridicule absolu que de dire que toutes choses ont été créées pour lui. C'est comme si moi je vous disais tout l'univers existe pour moi, ça a été fait pour moi, c'est pas, même s'il était un ange. Cette idée est complètement impossible, que tout a été créé pour cet ange. Mais s'il est lui-même le créateur, un tel créateur qu'il est tellement glorieux qu'il ne peut rien faire qui ne soit complètement pour lui. Que rien ne peut exister d'une manière juste sans se référer principalement à lui, et dire « je suis à toi » et heureux de l'être, n'est-ce pas? C'est ça Jésus-Christ, c'est ça votre Sauveur, celui qui a fait toutes choses et pour qui tout existe, sauf le mal qui n'est pas une chose créée. Mais un détournement des choses créées. En fait, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi que les choses ont été créées pour lui et nous-mêmes pour lui? Ça veut dire que nous ne pouvons pas, et aucun homme ou femme dans cette ville ne peut savoir qui il est et pourquoi il existe jusqu'à ce qu'il sache ou elle sache qui est Jésus-Christ. Parce que mon identité, c'est « j'existe pour lui, j'étais fait par lui, pour lui ». Et c'est seulement en connaissant le Christ que je reviens à mon identité, à savoir qui je suis et pourquoi je suis. C'est assez incroyable. Et les gens aujourd'hui dans notre société sont complètement paumés vis-à-vis de leur identité. Ils ne savent pas pourquoi ils existent. Ils ne savent même pas s'ils sont un animal ou Un fantôme qui n'existe pas en réalité, mais qui pense qu'il existe, un rêve. Les gens disent n'importe quoi au sujet de leur identité, parce que ils sont coupés avec celui par qui et pour qui ils ont été faits. Ensuite, Paul nous dit qu'il est avant toute chose. Et je ne vais pas passer trop de temps, mais on dit cela seulement de Dieu dans la Bible. Avant, dit le psaume 90, avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mais Paul dit ça de Jésus-Christ. Il est avant, pas tout le reste des choses, mais il est avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Verset 17, tout subsiste en lui. Alors, vous avez remarqué le changement? Il passe de quoi à quoi? Il passe de la création à la préservation. Et il est en train de dire que Jésus n'est pas seulement l'origine de toute chose qui existe en dehors de Dieu, mais Jésus est la source de leur continuation. Saviez-vous que si le Christ essayait, pardon, arrêtait maintenant de vouloir votre existence, vous disparaîtrez dans un néant comme si vous n'aviez jamais été. La seule chose entre vous et la non-existence est le vouloir de la deuxième personne de la Trinité. En lui, tout subsiste. Et c'est lui qui s'est fait homme pour vous sauver. Hébreux nous dit un peu la même chose. Nous avons lu tout à l'heure qu'il est le reflet de sa puissance, l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Et le mot soutien signifie qu'il est le sustentateur. Ça veut dire qu'il est celui qui donne la continuation à l'existence à toute chose. Donc, il ne faut jamais penser que notre Seigneur est un Seigneur qui a lancé une création, qui a en lui-même un principe d'existence inné. Vous n'avez pas de batterie. Vous n'avez aucune batterie. Si on coupe le courant, y a plus. D'accord? Vous n'avez pas un principe. Vous savez que les scientifiques n'arrivent pas à trouver quelle est la source de l'existence, quand ils regardent l'atome et ces particules qu'ils ne peuvent même pas voir, mais ils savent qu'ils sont là maintenant, et il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Ils n'arrivent pas à la dernière chose pour dire, mais d'où vient l'énergie? Ils disent qu'il y a quatre forces d'énergie dans l'atome. Dans la moins forte, c'est la gravité. Ça, c'est la moins gravité. Et il y a une force, la force plus grande, et des milliards de fois plus grande que la gravité. Et c'est pour cela que quand vous fissurez un atome, ça détruit une ville entière. Une seule atome. Une seule atome, il y a assez d'énergie pour faire péter une grande ville. Et la Bible nous dit que toutes les atomes de l'univers entier, c'est la puissance de la seule personne de Jésus-Christ qui les tient juste par son vouloir en existence. Vous n'avez pas besoin d'ange quand vous avez le Christ. Tout cela est très personnel. C'est merveilleux de savoir que personnellement, il me tient en vie, le Christ, mon Sauveur. Pas un ange, pas un étranger que je ne connais pas, mais mon Sauveur. Conclusion de cette deuxième partie. Pour les gnostiques, ça c'est un peu cet enseignement vers la Colosse qui se développe peut-être un, deux siècles plus tard et devient un peu plus ficelé. Et ça s'appelle le gnosticisme. Pour ces gens-là, il n'y a pas de créateur. Le vrai esprit divin est impersonnel et inconnaissable. Sauf à l'intérieur de soi, et même là, ça, on ne connaît pas bien. Mais l'Évangile nous déclare que c'est Jésus-Christ, qu'il y a un créateur personnel, il a un nom, c'est lui et pas un autre. Troisièmement et dernièrement, Jésus-Christ est prééminent non seulement dans sa relation avec le Père et avec la création de l'univers, mais aussi dans sa relation avec la nouvelle création, cette rédemption. Maintenant, Paul va passer de la première création à la deuxième. Et je ne sais pas si vous avez remarqué en le lisant au début, mais il y a un parallélisme. Le passage se divise net en deux parties. Regardez, par exemple. Il dit au verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et ensuite, dans le verset 8, il dit, il est la tête du corps. Maintenant, on parle de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Premier-né de la première création, il est le premier-né de la deuxième, de la nouvelle création, c'est-à-dire la création ressuscitée. En lui, tout a été fait dans la première création, et nous allons voir que en lui et par lui, tout est racheté dans la deuxième création. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ce que Jésus est par rapport à l'univers physique, il est aussi par rapport au salut. D'accord? C'est en lui, par lui et pour lui que tout est sauvé, changé, transformé, ramené à la plénitude lui seul. Et donc nous lisons cette deuxième partie, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement de la nouvelle création. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, donc maintenant incarné dans son corps humain, toute plénitude et de tout réconcilier, on retrouve les tout encore, les tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. On retrouve la terre, les cieux dans l'univers physique, on les retrouve maintenant dans une nouvelle création. Donc il va réconcilier tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Maintenant, je vais aller rapidement. Donc, premièrement, il est la tête du corps de l'Église. Alors, ne pensez pas à un corps physique, parce que dans le Nouveau Testament, les Grecs, tête, c'est tête-corps. Ici aussi, l'idée est présente, parce que vous voyez, il est la tête de l'Église qui est son corps. Mais surtout, l'idée ici est chef. Le mot tête signifie souvent chef dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et c'est de ça qu'il veut parler. Donc on retrouve la même idée de celui qui a l'autorité, celui qui est à la première place, celui à qui tout appartient. Il est la tête, le chef, mais de toute la nouvelle création. Il est le commencement. Alors le mot commencement, arché, en grec, est difficile à traduire. Le commencement, c'est pas un bon mot parce que quand moi je vous dis commencement, vous pensez à une série de choses dont il y a un premier. Or, le mot arché signifie quelque chose un peu plus comme fondement, fondateur et fondement, le principe de départ qui génère tout le reste. C'est ça le commencement. C'est comme il est le Big Bang de toute la nouvelle création. Sauf que le Big Bang qui continue parce qu'il maintient sa nouvelle création comme la première. Donc, Paul n'est pas en train de penser à la première création, mais la deuxième. Et donc, Jésus a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, donc ressuscité, et car je vis, vous vivrez aussi. Vous voyez? parce que j'aurai une nouvelle vie ressuscitée, glorieuse et différente et immortelle, vous aussi, vous aurez cette vie parce que ça viendra de moi. Je suis le lancement, ma résurrection est le lancement d'une grande résurrection. Dans ma résurrection, il y a contenu un univers nouveau complet. Il dit ensuite qu'il est le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Aussi, c'est l'idée de la prééminence, mais ici nous avons l'idée de la chronologie. Il est le premier-né d'entre les morts. Il n'y a aucune personne humaine qui est mort et puis qui est née encore complètement avec un nouveau corps qui ne peut pas mourir. Sauf un, lui. Il est le premier-né d'entre les morts. Corps et âme, un homme que la mort ne peut pas atteindre maintenant. Et en lui habite une plénitude de gloire divine et de puissance de résurrection qui peut communiquer à nous. Afin d'être en tout le premier. C'est-à-dire, il a toujours été le premier, mais le péché nous a donné un puzzle. Le péché nous donne l'impression que Jésus-Christ n'est pas le premier. Mais par sa rédemption, il va devenir, devant nos yeux, visiblement ce qu'il est invisiblement. Et le Père lui envoie racheter afin que ce soit lui qui crée la nouvelle création comme il a créé la première création. Que tout vient de lui, par lui et pour lui. Dans son amour immense de sauveur qui meurt à la croix. Ne pensez pas à un simple fait de puissance. C'est lui, dans sa grâce et son amour de calvaire, qui crée cette nouvelle création. Et rappelez-vous que la nouvelle création est plus dure à créer que la première. Pour la première création, Jésus a pu dire un mot, que la lumière soit. Pour la deuxième création, il doit devenir homme et obéir et mourir sur une croix. C'est bien plus glorieux. Sa seigneurie sur le Satan et le mal et le péché se voit bien plus grande à la croix lorsqu'il domine sur tout et rien ne peut le faire fléchir. Comment est-ce que, et je termine là, comment est-ce que nous savons qui tient cette même place envers la nouvelle création que dans la première création, qu'il est le premier-né, le commencement, l'archée? Paul dit dans le verset 19, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, ça ne parle pas de l'éternité, parce que ce n'est pas le Père qui a fait habiter dans le Fils sa divinité, dans l'éternité, non. Il parle de une fois incarné. Dans l'incarnation, il a plu au Père de permettre à Jésus, dans sa divinité, le Fils de Dieu dans sa divinité, d'habiter dans toute sa plénitude dans l'homme Jésus. D'accord? Et de tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par lui, par sa croix, en tout réconcilier, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Alors, je dois répondre à une question en terminant. Est-ce que ça veut dire que tout le monde sera sauvé? Parce que Jésus va tout réconcilier avec lui. Allez un peu plus loin dans Colossiens et vous verrez que non. Vous verrez que non. Le mot réconcilier est un mot qui parle, les théologiens nous disent, de pacification. Et Jésus va ramener tout l'ordre créé au bon ordre. Tout est dérangé, c'est le chaos du mal maintenant. Mais le Seigneur va tout réconcilier dans le sens de tout remettre d'aplomb, c'est ça le sens du mot, autant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre, en faisant la paix par le sang de sa croix. Et par sa croix, il dépouille les puissances mauvaises, les diables, et donc il sauve son peuple. Que devons-nous dire de tout cela? Alors d'abord, nous voyons que Jésus-Christ remplit tout l'espace entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas besoin d'ange, d'intermédiaire, parce que il remplit tout, n'est-ce pas? Il est complètement suffisant pour faire l'univers, pour garder l'univers, pour réconcilier les hommes et pour garder. Il devient homme, il vient jusqu'à nous, la proximité la plus proche. Donc on n'a pas, si on va vers des anges, on s'éloigne du Dieu qui s'est uni à nous dans son humanité. Nous n'avons pas besoin de toutes ces solutions, de tous ces systèmes sur lesquels nous comptons. Il y a des choses à faire, il y a des choses que nous devons connaître, et il y a des sagesses qu'il faut suivre, mais en faisant ça, notre foi n'est pas dans la technique que nous utilisons, notre foi est dans la personne du Christ qui est le maître, le chef, l'archée, le principe de la nouvelle création, de la plénitude, de la transformation. C'est en lui et en dehors de lui, ça n'existe pas. Et notre besoin, c'est qu'en utilisant tout ce qu'il nous dit comme technique, notre confiance, c'est que c'est lui, dans sa grâce, qui vient, qui s'unit à nous, qui nous change. Alors, ça, c'est facile à dire pour moi, mais c'est très subtil pour nous. C'est difficile de comprendre là où je déplace ma foi, et elle est dans ma technique. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir que la vie chrétienne est tellement personnelle et relationnelle. Christ a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments, demeurez en moi, sans moi vous ne pouvez rien faire. En moi toute plénitude pour l'homme, en dehors de moi rien. C'est ça le message que nous voyons dans ce passage, que le Seigneur nous aide à vraiment compter de plus en plus profondément sur lui. Nous allons chanter ensemble. Je crois qu'on va se limiter, comme j'ai été un peu long ce matin, au numéro 71 dans le recueil, Entonnons un nouveau cantique. Et après ce chant, on priera.